France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il y a plus de 4500 salariés à Radio France, plus de 3000 ici même à la maison de la radio. Donc est-ce qu'il y a des couples ? Secouer un ascenseur, vous allez voir, il en tombera 10, durable, genre CDI ou façon CDDU de la relation intime. Je peux vous en citer sur les doigts de mes deux mains et de mes deux pieds. Et encore, je suis la dernière au courant des potins. Et pourtant, vous le connaissez, le proverbe, hein, je me permets, n'envoyez pas de courrier outré, no job in job. Du coup, cette affaire Nestlé, du grand patron licencié pour une relation consentie, a pas mal alimenté nos conversations, sans parler de ce couple illégitime, patron DRH, chopé en plein écran d'un concert de Coldplay. Savez-vous que dans certains pays, pas seulement les États-Unis, toute fraternisation dans le travail est interdite. Le cas échéant, vous devez déclarer votre relation, charge pour votre supérieur hiérarchique de prendre une décision. Ça peut paraître lunaire, et encore que les relations intimes dans le travail, plus de 12% des couples se forment dans le travail, ce n'est pas seulement une affaire de messe basse dans les ascenseurs. Comment on fait quand on a une petite équipe, surtout dès lors qu'il y a un rapport hiérarchique entre les tourtereaux? À quel moment l'ambiance dans le bureau devient-elle plus pesante? On n'ose plus dire du mal du chef à la machine à café, alors que c'est à ça que servent les machines à café. Plus sérieusement, peuvent venir très vite les soupçons de favoritisme, les regards en coin au moment des promotions, même sans rapport hiérarchique, à quel moment les liens avec l'équipe se détériorent? Qu'est-ce qui se passe si on s'engueule? Pire, si le couple se sépare. Vous allez nous les raconter, vos petites et grandes histoires de bureau, petites et grandes histoires d'amour aussi, vos contorsions pour faire matcher les vacances, si vous n'avez rien dit à personne, ne jamais arriver ensemble ni repartir à deux, vos contorsions pour l'éviter, lui ou elle, après une rupture, vos agacements si désormais votre voisin de bureau est maqué avec le chef de projet. À quel moment la DRH a-t-elle le droit d'intervenir pour le bien de l'entreprise et son organisation? À quel moment a-t-elle le droit de séparer les couples pour le bien de l'organisation? À quel moment c'est vous, le couple, qui devez décider de bouger, changer de boîte ou de service, vivre l'amour d'amour et d'open space? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Valérie, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
On vous écoute, Valérie.
Eh bien, écoutez, je voulais témoigner du malaise, effectivement, que j'ai pu vivre en tant qu'employée dans une petite structure de 10 personnes. Le président sortait avec l'assistante de direction et on soupçonnait des choses, bien sûr, parce qu'ils arrivaient ensemble, ils repartaient ensemble. Enfin, c'était tellement gros et énorme, mais rien n'était dit. Et de fait, ça a créé une sale ambiance terrible jusqu'à l'éclatement de la situation, c'est-à-dire la femme a débarqué de ce monsieur donc dans le bureau, a fait un scandale et ça s'est soldé par l'assistante ne revenait plus au bureau et voilà quoi. Donc le couple a été séparé entre guillemets par la force des choses. Quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment l'assistante à qui on a dû trouver un autre job, c'est pas le patron qui a changé de service, rassurez-moi.
C'est clair.
Voilà.
C'est clair.
Merci Valérie pour cette entrée en matière et pour ce témoignage pour commencer ce téléphone sonne. Autour de la table, il y a donc une autre Valérie et c'est Valérie Menounayat. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialiste en droit social au sein du cabinet HMS Avocat.
Oui.
Vous allez nous raconter justement ce qu'on a le droit de faire ou pas, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu cadrées. Il y a Jean-Claude Delgène aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur du cabinet de prévention des risques professionnels Technologia. Vous avez notamment écrit « Faire face aux risques psychosociaux » aux éditions Erol. C'est cette année, n'allons pas jusqu'à dire que le couple en entreprise est un risque psychosocial, mais encore que... mais encore que... Alors un mot quand même sur la situation de notre amie auditrice, pour commencer... Elle a raison, je plaisantais en parlant de Radio France tout à l'heure, mais on est 4500, enfin à un moment on peut faire en sorte que ça se voit pas ou qu'on trouve un autre endroit où travailler. Quand on est 10, ça raconte une toute autre histoire en fait, Valérie Memounayat.
Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est un risque psychosocial? Je dirais pas ça comme ça. Est-ce que c'est une situation fréquente? Ça, c'est une certitude. Est-ce que ça peut induire ou avoir des effets sur la relation de travail ou sur l'organisation du collectif? Eh bien, oui. Avec une évolution récente, intéressante, avec beaucoup de bruit médiatique sur les affaires les plus connues aujourd'hui, avec évidemment aussi un regard qu'il faut avoir et qui est très localisé. Le droit du travail français n'appréhende pas du tout de la même manière que les principes fondamentaux à l'anglo-saxonne ou aux États-Unis. Donc, effectivement, comme le disait Jean-Claude, d'une part, il peut y avoir un risque psychosocial induit. soit dans la relation entre les participants à cette relation, soit dans l'équipe auquel ils appartiennent.
Mais est-ce qu'on a le droit, parce qu'effectivement on n'est pas aux États-Unis, donc il y a un certain nombre, voilà, j'ai envie de dire heureusement quand même sur les règles du droit du travail, mais néanmoins, si dans une entreprise comme celle de notre auditrice où on est 10 seulement, ça commence à créer des problèmes et des tiraillements, est-ce qu'on a le droit d'aller chez le DRH en lui disant il y a un souci de faire en sorte que ce couple soit séparé. Est-ce que c'est légal de faire ça ou si ça me concerne, je peux attaquer
le légal, et je laisserai Jean-Claude sur la dimension strictement psychologique du trouble dans l'entreprise et des risques psychosociaux. Sur le légal, bien sûr qu'on a le droit d'aller dire au DRH ce que l'on souhaite si l'on ressent un malaise quel qu'il soit et pour quelque cause que ce soit. En revanche, est-ce qu'on a le droit d'être en couple dans une entreprise ? Oui. Est-ce que en soi c'est une faute ? Non. La relation intime, quelle qu'elle soit, dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, elle est protégée.
Avant de passer la parole à Jean-Claude Elgène, juste un mot justement là-dessus, puisque ça existe aux États-Unis, une boîte américaine installée en France qui, dans ses statuts aux États-Unis, aurait interdit de fraterniser, dès lors qu'elle s'installe sur notre territoire, on est d'accord, on peut fraterniser.
A priori, ça atteindra des règles d'ordre public qu'un conseil de prud'homme pourra rectifier, et il y aura une portée des dispositions d'interdiction qui pourra être soumise à l'appréciation du juge. Donc, sur le principe, c'est une liberté absolue, et en plus, elle est protégée, c'est-à-dire que ça relève de la vie privée, et avant de parvenir... Alors, la séparation, c'est une chose, c'est-à-dire arbitrer de manière managériale, et ça, Jean-Claude prendra le relais, arbitrer sur la relation managériale et une séparation éventuelle, c'est une chose, une sanction ou une rupture du contrat de travail, pour un motif disciplinaire ou pour un motif d'atteinte, de trouble objectif dans l'organisation d'entreprise, c'est autre chose. Donc sur le légal, non seulement on n'est pas comme aux États-Unis, mais il y a une protection de la vie privée suffisamment forte.
Alors, c'est vrai que c'est autre chose, Jean-Claude Desgenes, effectivement, comme le dit Valérie Memounayat, mais jusqu'à quel point, encore une fois, ce sont des cas qui doivent être documentés aujourd'hui, parce qu'on en plaisante, mais jusqu'à quel point il faut le documenter, et même s'il n'est pas légal en effet, il faut y poser un cadre, en fait.
La réglementation, la jurisprudence a déjà répondu depuis très longtemps à cette question-là, puisque la Cour de cassation, je crois que c'est une décision qui remonte à en mars 2007, a caractérisé le fait qu'il fallait une nécessité d'un trouble objectif est caractérisé pour pouvoir effectivement soit sanctionner, soit licencier dans l'entreprise. Donc, le vrai sujet, il est là. Par exemple, le cas que vous prenez là, si ça avait été deux salariés, il y aurait peut-être aucun problème. Là, on a un homme clé, qui est le patron, le dirigeant.
Parler de Nestlé, ouais.
Et donc, avec une assistante, en fait. Et donc, très souvent, il y a des problèmes lorsqu'il y a la question du pouvoir qui rentre en jeu. Donc, le pouvoir, c'est la régulation. En France, on est très attaché à l'égalité. Et quand vous avez une équipe où il y a ce type de relation qui se noue, où il peut y avoir des conséquences en termes de privilèges, de favoritisme, etc. Tout de suite, il y a quoi ? Il y a des rumeurs, il y a toute une série parfois de... Nous, on a fait une enquête, je ne sais pas si vous le savez, il y a un an là-dessus, la romance au travail, où on a démontré qu'il y avait à peu près 46% des Français qui avaient eu une relation, disons, intime ou...
À un moment dans le travail.
Dans le travail. Ah bah, 46%, 1 sur 2.
Nous, on a fait le test au bureau, j'ose pas vous donner le résultat, mais...
Et donc,
On était au-delà de 46.
Parce que c'est normal. Le travail, c'est ce qui occupe nos vies, en fait. Ça nous permet de gagner notre vie, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est un lien d'appartenance. Et donc, c'est normal qu'on ne peut pas mettre un mur étanche entre l'émotion et la vie privée et la vie professionnelle.
Avant de retrouver Bernard qui nous attend au standard, je voudrais juste rebondir sur une chose que vous avez dite, Jean-Claude Desgenes. En effet, très souvent, la difficulté, là, en l'occurrence, on parle de Nestlé, c'était le grand patron avec une assistante. Mais quand on nous dit, oui, vous pouvez aller voir le DRH pour telle et telle raison, je me vois bien aller voir le DRH en disant, le super grand patron a une relation avec son assistante et ça gêne le travail de groupe. Ça me semble très très compliqué quand même.
Non, mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent entrer en jeu. Il y a des questions d'exemplarité, il y a des questions... Quand par exemple quelqu'un rentre dans un bureau et que vous avez deux personnes qui sont dans une situation très particulière, ça arrive assez souvent.
Ah ouais, plus souvent qu'on imagine.
Voilà, donc à partir de là, vous avez donc des questions qui peuvent se poser, des gens qui sont choqués, vous avez quand même un peu de pudibonderie.
Il faut réhabiliter l'open space. Hein,
Et il y a des gens qui vous réclament un peu de prohibition. Moi, je suis contre la prohibition. Je suis vraiment pour tolérer l'émotion au travail. Je suis pour la réguler quand c'est nécessité. Quand il y a nécessité, effectivement, que si ça va trop loin, s'il y a des dérives, y compris, il peut y avoir des dérives, vous ne l'avez pas dit, mais il y a une question très importante, c'est quand il y a un couple qui se fait et qu'il y a une rupture...
On va y revenir. On va y aller dans un instant, parce qu'en effet, la rupture, ça peut faire mal. Retour au standard, d'abord, si vous voulez bien, avec Bernard qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors deux témoignages. Alors moi, j'ai rencontré ma femme sur le lieu de travail. J'étais dans une entreprise étrangère et parce que les gens, même si on fait attention, les gens sont pas idiots, ils voient vite les choses. Mon directeur m'a convoqué et il m'a dit voilà, la situation est simple. On n'est qu'une société américaine. Ça ne se fait pas. Donc soit tu pars, soit c'est elle qui s'en va. Et donc c'est moi qui suis parti. Et ensuite j'ai trouvé un travail dans une autre entreprise. Et alors là, il m'est arrivé une chose, c'est que la directrice commerciale, qui était ma directrice directe, avait une relation avec le directeur général de la société. Et effectivement, je peux témoigner que ça crée des situations très compliquées de pouvoir, de harcèlement des collaborateurs et de comportement de diva.
Mais du coup, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut, Bernard, se tourner vers quelqu'un dans l'entreprise avec cette raison-là dans les mains, en fait, en disant la directrice commerciale est avec le directeur machin et vraiment ça nous gêne, ou est-ce que vous êtes obligé de subir, en fait ?
Subissait et il y avait une omerta forcément et donc après ça s'est passé puis après les gens sont partis, mais oui, c'est personne n'ose parler, ça c'est évident.
Vous étiez dans quel pays, Bernard, quand ça s'est produit?
Alors moi j'étais aux Philippines.
D'accord, ok. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage, Valérie Memounayat. Encore une fois, on le redit, la boîte, en l'occurrence, installée en France, ne pourrait pas vivre la même chose. Mais moi, je trouve que ça dit quelque chose, quand même, quand une boîte, encore une fois, pas seulement aux États-Unis, éprouve le besoin de faire rentrer ça dans ses textes. Qu'est-ce que ça dit, ça, en fait ?
Alors, je vais me permettre d'intervenir sur mon angle d'approche, qui est celui du droit du travail en France, en réalité, pour donner quand même un éclairage structurant pour ce type de situation. D'abord, pour rebondir sur ce que vous disiez, on peut aller voir le DRH, mais vous avez raison. On ne va pas voir le DRH pour aller lui ébruiter une rumeur en disant, dites donc, ça me dérange que Géraldine et François se bécotent dans le couloir.
Comment vous les connaissez ?
Objectivement. Mais je connais tout, mais je sais tout. Et donc, donc c'est pas ça. L'idée, c'est qu'il y a un malaise qui se crée, un trouble. Et le droit du travail l'appréhende du point de vue de la relation intime entre les deux salariés. En termes de protection, c'est la protection de la vie privée. En théorie, on n'y entre pas, on n'a pas à contrôler, on ne peut pas piéger, contrôler, suivre avec des caméras. Ça, c'est impossible.
Ce qu'on sanctionne, c'est pas la relation, c'est la conséquence de la relation.
Exactement. C'est les effets de la relation à travers, en réalité, trois grandes branches. Le disciplinaire, est-ce qu'il est à faute à un instant T ? Le trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, qui n'est pas fautif, mais qui est discernable par des intervenants qui, à ce moment-là, vont se plaindre avec un dossier étayé, et la loyauté et les conflits d'intérêts. Voilà les trois axes qui sont ceux-là. Très récemment, je crois qu'il y a une dernière décision de juin 2025 où la DG était l'épouse du PDG qui a une relation avec une de ses subordonnées.
Ouh là là.
La DG l'apprend, ou le PDG, évidemment, elle est licenciée, et le licenciement est annulé.
Bah oui.
Parce qu'il n'y a pas de fait objectif, sauf que, et on peut remettre ça en cause, parce qu'il y a quand même un trouble objectif de la relation, quand le couple, quand le binôme de l'exécutif est en pleine dispute.
Mais sans aller jusqu'au licenciement, Valérie Memounayat, imaginons une boîte suffisamment grosse où on peut décider finalement que, pour le bien de l'organisation, l'une des personnes de ce couple est déplacée dans un autre service, mais le travail n'est pas forcément aussi intéressant qu'il l'était dans le précédent, il y a une réadaptation à faire, etc. Est-ce que si c'est mon cas, je peux contester le fait qu'on m'ait changé de service, en
bien
fait
sûr. Bien sûr. C'est la protection de la vie privée, qui est une liberté fondamentale, est effectivement la limite au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Mais le disciplinaire, pour moi, le trouble objectif dans l'entreprise et la loyauté des conflits d'intérêts, c'est trois axes très différents d'appréhension et de compréhension des enjeux d'une situation et son impact sur l'organisation collective.
Est-ce que je peux vous reposer la question que je posais tout à l'heure, Jean-Claude Delgène, qu'est-ce que ça dit d'une grosse boîte, indépendamment, encore une fois, du fait que effectivement les Américains ont ce côté pudibond, mais pas que. Qu'est-ce que ça dit d'une grosse boîte quand elle décide de faire rentrer l'intime à l'intérieur de ses textes
Faut comprendre pourquoi les Américains le font, pourquoi ils vont régir jusque le fait de regarder quelqu'un dans les yeux. Par exemple, vous avez des boîtes aux États-Unis qui interdisent de regarder quelqu'un d'eau. Tout à fait, ça, sincèrement, je ne peux pas vous donner le nom de la boîte parce que je ne veux pas être attaqué, mais si vous regardez quelqu'un dans les yeux plus de 5 secondes, ça peut être considéré comme, je dirais, source de malaise. Vous voyez, les boîtes interdisent, par exemple, de raccompagner. 50% des boîtes interdisent de raccompagner en taxi le soir un collègue. 50% interdisent de prendre l'ascenseur. Enfin, il y a des tas de réglementations. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même vous avez aux États-Unis l'obligation, quand vous avez, dans la moitié des boîtes à peu près, de déclarer une relation, le love contract. Alors, ça dit quoi? Ça dit simplement que les boîtes, elles essayent de se protéger aux États-Unis de conséquences. Qui peuvent être très coûteuses aux États-Unis, très peu en France, mais beaucoup plus aux États-Unis, quand il y a des problèmes qui peuvent surgir après, de dérives, d'harcèlement sexuel, etc., etc. Donc, effectivement, elles se protègent en faisant signer des contrats qui permettent de faire retomber la responsabilité sur les deux acteurs concernés. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il faut accepter ça en France? Non. Moi, je pense qu'en France, il ne faut surtout pas aller vers cela. Et quand l'amour frappe à la porte comme une évidence, il faut l'accepter.
C'est joli, ce que vous dites. Juste deux petites choses. Pardon, je vous donne la parole tout de suite, Valérie Mémounayad, je vous le promets. D'abord, on a Gaël sur WhatsApp qui dit, mais comment on fait quand on sort justement avec le ou la DRH? C'est une excellente question, Gaël. J'ai envie de dire bien joué. Linda nous dit ceci, c'est bien qu'on rétablisse les choses, la personne en question n'était pas une assistante quand on parle de Nestlé, mais une directrice de marketing. Et un blog suisse dit que les décisions RH étaient impactées effectivement par cette relation. Voilà, c'est un peu trop facile toujours de faire le grand patron et l'assistante. Je vous donne la parole, Valérie Mémounayad. On écoute d'abord Mathieu. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Mathieu.
Merci.
Allez-y.
Du coup, moi, mon témoignage, c'est que je travaille dans une entreprise dans laquelle j'ai posé ma démission. Et au moment de ma démission, ma future compagne est rentrée dans l'entreprise. Donc, on a travaillé que un mois ensemble. Mais ça a suffi pour que ça matche entre nous. Et finalement, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On est mariés et on a deux enfants. Et alors le problème, c'est que maintenant, on est dans des entreprises concurrentes, donc c'est un peu compliqué, mais comme quoi, on peut trouver son âme sœur au travail.
Ah ben, j'espère bien, et vraiment, on vous le souhaite. Mais est-ce que vous vous êtes dit, Mathieu, finalement, tant mieux qu'on se soit à peine croisés, parce que, au fond, dans la relation de travail, peut-être qu'on ne se serait pas trouvé, en fait, parce que c'est pas le même genre de relation, c'est pas le même genre de rapport.
J'avoue pas trop y avoir pensé, puisque du fait que moi, dans mon optique, je partais, j'ai pas pensé à si j'étais resté, est-ce que ça aurait été différent. Il s'est avéré que finalement, on a très vite eu des points en commun et autres, et du coup, on a pu continuer à se voir. Alors, on s'est vu qu'un mois au travail, mais comme quoi... Ça suffit, quoi.
Et comme quoi le travail, ça fonctionne. Merci beaucoup, Mathieu. Il y a un point soulevé par Mathieu, Jean-Claude Delgène. Il dit maintenant, on travaille dans des boîtes concurrentes. Est-ce qu'on est obligé parfois de dire,
des questions obligées. Okay. Mais je voulais revenir sur un point qui a été dit, qui me paraît très... Pourquoi, en fait, le travail permet ça? Parce que dans le travail, on voit les gens dans la durée, on voit comment ils se comportent. Est-ce qu'ils sont mesquins? Est-ce qu'ils sont généreux? On apprend à les découvrir réellement en situation. Et ça, c'est fondamental pour la relation future.
On voit le vrai soi, vous voulez dire, dans le travail.
Alors que si vous êtes sur une application, je ne sais pas si vous êtes adepte des applications, ou même en vacances, on a une déformation de la personnalité de l'autre. Et donc, le travail permet véritablement des relations dans la durée. Et ça, c'est très intéressant.
On revient sur cet aspect, Valérie Mémounayad. Deux boîtes concurrentes, un couple, deux boîtes concurrentes. Quand il y en a un qui en quitte une, justement, parce qu'ils sont pour ne pas être ensemble. Mais enfin, il y a la même spécialité. Il faut le dire, ça, dans certaines boîtes, ou
ça fait partie de la déontologie et de conflits d'intérêts potentiels. En réalité, en abordant le thème de l'amour au travail, il y a quand même deux niveaux. Il y a le niveau niveau, j'allais dire, spirituel de l'amour qui peut arriver n'importe où, et surtout au travail, parce qu'on se voit beaucoup, parce que ça peut galvaniser une relation, parce que bah voilà, il y a des admirations réciproques qui peuvent se mettre en place. Mais l'amour en tant que tel n'est pas le sujet. Le problème est de savoir qu'est-ce qui doit être rationalisé dans la relation de travail, que l'amour peut perturber par des décisions ou des options irrationnelles. Et c'est pour ça que je faisais bien la différence entre le disciplinaire, le trouble objectif dans l'entreprise et le conflit d'intérêts ou de loyauté, qui touche à la déontologie, à l'éthique, etc. Et où on peut se rapprocher un peu des positions anglo-saxonnes, d'ailleurs, sur ces problèmes éthiques. Typiquement, sur le conflit d'intérêts, si vous êtes PDG de deux boîtes concurrentes, il y a un vrai sujet, et parfois... Ouais. Bon. Si on veut revenir de manière très concrète et un peu triviale, il y a eu très peu de sanctions validées par la juridiction prud'homale et jusqu'à la Cour de cassation d'une relation sur lieu de travail. À ma connaissance, la plus récente, elle est 2024, et c'était un DRH, ou une DRH d'ailleurs, il faudrait que je regarde, avec
un syndicaliste. On a tous lu cette histoire, elle est formidable.
Tout à fait. Ça, c'était 2024. Appelez-nous, et on a estimé...
si vous êtes le syndicaliste ou le DRH, je vous en suis. Supplie, appelez-nous.
Voilà. En revanche,
honnêtement, c'est génial. Quand on y songe, quand même. Honnêtement.
Mais à partir de quel moment à partir de quel moment ça devient disciplinaire? C'est rare que ça devienne disciplinaire, mais ça le devient dès lors que on a mélangé quand même plusieurs notions. Et ce que disait Jean-Claude est tout à fait exact. Qu'est-ce qu'on craint comme dérive? C'est pas lorsque l'amour est là et que tout va bien.
Mais oui,
c'est lorsqu'il y a des déviances, soit de favoritisme, soit de rupture. Et d'agissements sexistes, ou de harcèlement, ou de pression, ce qui est arrivé aussi.
Pour compléter ce que dit Valérie, dans la fonction publique, vous avez des cas qui peuvent se trouver et qui obligent au départ. Si vous êtes par exemple inspecteur de l'éducation nationale et que votre épouse est enseignante,
on peut pas inspecter son épouse.
Oui, mais justement, donc dans ces conditions-là, vous avez un déport qui est organisé. Dans la fonction publique, c'est pensé pour éviter justement les conflits d'intérêts, pour faire en sorte que les gens ne soient pas dans des situations de cette nature. Donc, on pourrait très bien imaginer. Adapté. Pourquoi ? Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, on n'a pas la possibilité vraiment de réguler en France. Et donc, au final, à un moment donné, soit on oblige la personne à partir, soit les licenciés. Il y a toujours une rupture. Et donc, ça, c'est pas très bon. On va en parler, mais les conséquences. Une dernière chose aussi. On parle beaucoup des dirigeants avec des employés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la relation réellement au travail entre deux personnes, elle est inversement proportionnelle à la hiérarchie. C'est-à-dire que quand vous êtes collègue, à pratiquement à 100%, les salariés sont OK pour avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Ceci dit, quand vous êtes, avec un dirigeant, cette acceptabilité de la relation, elle tombe à 44%. Donc, vous voyez, donc, c'est quand même très intéressant de voir la question du pouvoir dans cette affaire.
Je vais vous lire deux témoignages, justement, puisqu'on est dans cette question-là. Je suis infirmière, nous dit Alix sur WhatsApp. J'ai rencontré mon conjoint au travail qui est chirurgien et ça n'a pas été facile avec mes collègues. J'ai beaucoup entendu de rumeurs disant que j'étais avec lui pour son argent et son statut. Je ne sais pas si un homme aurait eu les mêmes remarques avec une femme plus diplômée. Elle a tellement raison. Et nous avons aussi ceci. Catherine nous dit « Je fus l'assistante d'un grand patron dans une entreprise très hiérarchisée et je suis tombée amoureuse d'un ouvrier. On m'a demandé de partir en ajoutant que j'aurais plus de chances que lui de retrouver un job car cette relation était inconcevable. » Qu'est-ce qu'on en pense de cette remarque ?
C'est incroyable de faire entrer la morale là-dedans quand même.
Incroyable.
Ludovic, d'abord, j'ai une autre question après pour vous. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je suis chef d'établissement d'enseignement catholique. Et je suis tombé amoureux d'une collègue. La relation a pris du temps à s'installer. Et il se trouve que ma hiérarchie m'a largement soutenu, parce qu'ils l'ont appris assez vite, parce que j'en ai parlé. Pour eux, le travail était fait. Le petit souci que soulevait des intervenants, c'est que dans l'enseignement catholique, le chef d'établissement est supérieur hiérarchique des enseignants. Et ce qui s'est passé, ça n'est pas venu de ma hiérarchie, c'est venu de mes collègues. Qui ont littéralement considéré ma compagne aujourd'hui comme une favorite, et qui l'ont empêchée de travailler, qui, moi, m'ont empêché de travailler, au point que ma compagne est obligée d'être mutée.
Alors voilà,
c'est que moi, et que moi, de mon côté, ça a terni la relation avec certaines familles, parce que tout le monde s'en est mêlé. J'avais l'impression d'être dans de la télé-réalité. Tout le monde voulait tout savoir sur ma vie privée, alors que, jusqu'à présent... ça les intéressait pas beaucoup.
Pourquoi vous en avez parlé, vous, avant, en fait à qui, déjà, vous m'avez dit au début ?
À ma hiérarchie.
À votre hiérarchie, ouais. Pourquoi vous avez prouvé le besoin ? Vous vous êtes dit, il faut que je le fasse parce que ça finira par se savoir. Ça va leur monter aux oreilles, donc je vais le faire avant, c'est ça l'idée ?
Exactement. Ouais. Et puis nous, les enseignants ont des rendez-vous de carrière. Il se trouve que le chef d'établissement dans l'enseignement catholique sous contrat a son mot à dire sur les rendez-vous de carrière. Et si je dois évaluer celle qui est ma compagne aujourd'hui, c'est évident que ça crée un biais. Et j'ai été très transparent en leur disant que si je devais ne pas évaluer ma compagne, ça poserait pas de souci. Mes supérieurs m'ont dit t'as une capacité à être objectif. Oui, j'ai une capacité complète à être objectif. Mais c'est surtout mes collègues et les parents d'élèves. Et ce que je dis, je suis l'enseignement catholique plutôt pour défendre la maison, parce que ça tient pas du catholique, parce que les parents qui m'ont balancé négativement sont pas ceux qui font du caté.
Ah oui, parce que j'allais dire, c'est pas très catholique comme manière de faire.
Ah non, c'est pas le côté catholique, non. C'est justement un côté qui m'a blessé. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai également demandé ma mutation.
Alors, c'est exactement, voilà, j'allais vous demander ça aussi, Ludovic, en fait, parce que je vois bien que votre femme finit par quitter l'établissement, parce que c'est infernal avec les collègues et qu'on n'a pas le droit d'aller au boulot avec une boule au ventre. Enfin, du coup, si on peut partir, on s'en va. Mais du coup, vous restez quand même. Mais là, vous êtes en train de nous dire que vous allez partir, parce qu'effectivement, toute la relation avec les autres a été pourrie, en fait.
Exactement. Mmh. Et la mutation est un petit peu plus longue, parce que quand on est chef d'établissement, on va avoir panel d'établissements dans lesquels on peut aller, et puis ça dépend de là où j'habite également. J'ai pas envie de faire 200 km pour aller travailler. Mmh.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous souhaite bonne chance pour la prochaine mutation. Évidemment, on vous embrasse tous les deux, Ludovic. Merci beaucoup. Ce qui est très compliqué, Jean-Claude Delgène, c'est que tout ça est tellement diffus, en fait. Enfin, personne n'aurait pu prouver que Ludovic avait eu un biais vis-à-vis de son épouse, ou au contraire, lui ne pouvait pas arriver à convaincre qu'il n'en avait pas.
Mais vous savez,
à un moment, on est dans des choses qui sont très ténues quand même.
Mais vous savez, la rumeur, c'est terrible dans une entreprise. La rumeur, ça vous désingue une carrière. C'est vraiment, dès qu'il y a un élément comme celui-là, il a très bien résumé. Tout de suite, les gens, à la fois, en fait, vont prendre l'affaire soit sous l'angle moral, je dirais la critique un peu facile, etc., soit sous l'angle rupture de l'égalité. Il y a un autre traitement, je suis donc, en fait, désavantagé par rapport à l'autre, etc. Donc, plutôt que de considérer le côté, je dirais, lumineux de la relation. Voyez, et d'ailleurs, on le voit, les couples qui se forment sur le lieu de travail durent, en général.
Ah oui.
Moi, j'ai fait pas mal d'émissions là-dessus, et on voit, il y a des gens qui nous ont dit, mais d'ailleurs, des collègues à vous, qui nous ont dit, mais moi, j'ai rencontré, et ça dure depuis, je suis depuis 20 ans, enfin, je suis très content, etc. Mais c'est vrai que c'est dur à assumer, parce que justement, les personnes sont assez critiques. Vous savez, c'est la critique facile. Hein, donc, et ça, il faut vraiment faire preuve de générosité, de bienveillance. Il faut le dire à l'antenne, il faut que les gens soient bienveillants.
Soyez bienveillants, les gens.
Oui,
voilà. Écoutez, Sandra qui dit « J'ai rencontré mon compagnon au travail, il a refusé une promotion pour devenir mon responsable, par amour, avant même que notre histoire ait commencé. » Donc ça veut dire qu'il avait une petite idée derrière la tête. Mais ça aussi, on parlait des gens qui sont mutés ailleurs ou pas. Il y a aussi ce cas de figure, que je trouve vraiment intéressant, refuser la promotion parce qu'il va y avoir un rapport hiérarchique et que ça risque d'abord peut-être de modifier un peu la relation dans le couple, parfois ça peut coincer un peu, et puis surtout effectivement dans le reste de l'entreprise. L'un ou l'autre, pardon, je vous en... chacun a pris son élan, allez-y Valérie Mémounaillette.
Je disais, parfois, et là c'est pas du tout juridique, la séparation, la mutation ou le départ protège la relation qui s'est nouée au travail. Après, dans la durée, la relation elle est forcément impactée par l'environnement du travail, qui implique évidemment de la pression, des résultats, de l'évaluation, des choix, etc., qui peuvent devenir irrationnels.
Après, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, Jean-Claude Desgenes, ou d'intéressant en tout cas, c'est qu'il y a effectivement cette difficulté parfois dans les couples au travail. On a dit déjà jusqu'à quel point les Américains avaient fait des choses très encadrées, mais les premiers à avoir ouvert les open space, décidé qu'il fallait aussi un baby-foot, etc., à l'intérieur des entreprises, qui ont fait des team building, etc., ce sont aussi les boîtes américaines. Et c'est typiquement ce genre de choses qui favorisent également la création de couples à l'intérieur d'une entreprise, en fait.
Oui, tout à fait, mais les Américains ne sont pas...
Un paradoxe près.
Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'on a à peu près la même proportion qu'en France de couples qui se forment sur le lieu de travail, à peu près, disons, 1 sur 2. Ceci dit, quand on voit les déclarations qui sont effectuées réellement par les couples qui se forment sur le lieu de travail, on voit qu'on est à 18%. Et donc, on voit bien que les salariés américains refusent, en fait, cette introduction dans leur intimité. Ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est un encouragement pour nous à ne pas aller vers cela.
Madame l'avocate, Valérie Memounayat, voici Thierry qui vous dit ceci. Est-ce légal en France de refuser d'embaucher son conjoint même s'il ne travaille pas dans le même service? Qu'est-ce qui se passe en cas d'embauche?
Alors là, c'est une discrimination à l'embauche, mais ça créerait un peu de dissension dans le couple.
Comme vous dites.
Si le couple existe et si la personne refuse, je dirais qu'il y a d'abord le sens des responsabilités de l'un et de l'autre, et c'est une question de communication dans le couple. Peut-être que la question un peu précisée serait, il y a eu couple, il n'y a plus couple, la personne postule dans l'entreprise et refuse parce que c'est une ancienne relation. Là, on peut se poser la question et elle pourrait considérer, ou il pourrait considérer que c'est une discrimination à l'embauche. Ouais. Maintenant, est-ce qu'un couple existant, est-ce qu'il est envisageable, concevable, qu'une personne dans le couple vienne postuler, alors que le couple va bien, vienne postuler en sachant que son conjoint ne veut pas le recruter? C'est particulier.
C'est pas une bonne idée.
Ça dépend de la qualité relationnelle. Parce que travailler avec son ex, ça peut être l'enfer, comme ça peut être pas mal, en fait. Voilà, parce qu'on a réglé certains problèmes. Mais bon, le vrai sujet, c'est quand la rupture a lieu sur le lieu de travail. Parce que ça peut tout emporter. Moi, j'ai vu des boîtes qui sont tombées parce que les deux fondateurs, étaient en couple. Bon, quand ils étaient en couple, ils partaient.
Il y a des histoires merveilleuses de gens qui ont monté leur boîte ensemble. Et effectivement, comme vous dites, des histoires épouvantables de gens qui ont divorcé en plein milieu.
Et donc, quand le couple rompt, c'est ça la réalité.
Y compris quand ils sont obligés de continuer à travailler, d'ailleurs, pour ne pas couler la boîte, parce que c'est le salaire de chacun.
Ouais, en général, ça ne dure pas. Regardez Bezos, il est obligé de lâcher quand même beaucoup d'argent à celle qu'il a aidé à réussir.
Il n'a pas lâché Amazon. Mais enfin, elle va bien, je pense.
En réalité, il y a des arbitrages qui se font, mais la rupture peut être très coûteuse, y compris sur le plan de l'emploi, pour les salariés qui sont dans la boîte.
Voici Catherine, qui est à Saint-Malo. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir, madame.
On vous écoute.
Voilà, j'étais infirmière avec un collègue de nuit dans le service de réanimation, et ainsi qu'une collègue ex-soignante. Sauf que ces deux personnes étaient tombées amoureuses et s'étaient connues du service. Les surveillantes les ont mis quand même de nuit avec moi. Et dès que l'équipe de jour était partie, eh bien, ils étaient occupés à d'autres activités. Et si bien que je me suis occupée toute seule de tous les patients pendant un mois. Donc, j'ai signalé à mes supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire les médecins, les anesthésistes, rien n'y a fait. Et à la suite de ça, comme les problèmes continuaient de jour, l'étrignante femme a été virée du service. Le monsieur est resté dans le service. Il est passé cadre. Il est passé cadre supérieur. Et moi, qui étais enceinte, j'ai été sanctionnée pour des motifs complètement aberrants. Voilà.
Merci, c'était Catherine, pour votre douloureux témoignage. Et je sens bien que c'est encore douloureux pour vous, ce que je peux comprendre.
Là, il y a une perturbation totale du service. Et ça, on le trouve quand même assez souvent, avec des passe-droits, des privilèges, des reports d'activité. Enfin,
c'est terrible, mais il n'y a rien qui nous étonne là-dedans, en fait.
Bien sûr.
C'est-à-dire, c'est elle qui a dû partir. Ouais.
À chaque fois, c'est la femme.
C'est Catherine qui, elle aussi, en apathie, et monsieur lui a grimpé. Je ne veux pas faire de caricature, mais enfin, on est quand même un peu vraiment dedans.
Alors là, on entre... Si je peux...
Je vous en prie, entrez.
on entre aussi dans une zone qui est la zone de souffrance au travail, où il y a d'autres outils. Il y a, au-delà d'aller voir la DRH, les alertes, et puis il ne faut pas oublier le rôle du médecin du travail, des instances représentatives du personnel, et qui aura potentiellement le mot de la fin si personne ne bouge dans l'entreprise. Ça peut être le juge en matière de qualification d'une situation de souffrance, d'une absence de prévention qui aboutit donc à des sanction directe à l'égard de l'employeur lui-même.
Mais il y a beaucoup de gens qui nous racontent des histoires de souffrance malgré tout, hein, ou de choses qui ne sont pas forcément aussi douloureuses que ce que nous dit Catherine, mais qui sont pas simples. On a Lise, tiens, sur WhatsApp, qui dit ceci: dans le cadre de mes fonctions de manager RH, j'ai eu dans mon équipe l'épouse du directeur général de l'organisation où je travaille. Cette situation n'a pas toujours été facile à gérer. Par exemple, nous avons été en désaccord lorsqu'elle a souhaité poser des congés qui n'étaient pas compatibles avec le fonctionnement de l'équipe. Le conflit a été tel qu'elle a envisagé de démissionner. Finalement, le directeur est intervenu, a modifié ses congés, et à partir de ce moment-là, il a pris l'habitude de me consulter systématiquement avant de poser les siens. Mais il y a évidemment un vrai ajustement à faire qui est parfois, visiblement avec Lise, ça s'est bien terminé, parfois ça se termine moins bien.
Oui, mais ça, ce type de relation, on l'a toujours quand vous avez en fait des relations familiales qui rentrent en jeu et qui perturbent la capacité managériale. Ça peut être un enfant, ça peut être un cousin. Vous avez d'autres logiques qui rentrent en compte, qui sont des logiques familiales. Et dans le couple, c'est la même chose. Quand vous avez, je dirais, des relations et que, en fait, ça perturbe les congés, la répartition, les anticipations de charges, les rémunérations, c'est évident qu'à un moment donné, les gens ne tolèrent plus. C'était pas ça. Il y a 30 ou 40 ans, les gens acceptaient. Aujourd'hui, les gens n'acceptent plus d'être dans cette situation-là, et c'est tant mieux.
Vous m'étonnez. Heureusement que c'est tant mieux, c'est quand même très mignon, nous dit Karine, quand on parle d'amour, mais quand on parle d'adultère, c'est quand même un peu plus gênant. Et surtout, quand on connaît les conjoints, nous non plus, on ne va pas faire de morale à l'intérieur du téléphone sonne, mais elle a raison, Karine, l'entreprise, c'est aussi ça. C'est aussi l'endroit où, puisqu'on n'est pas dans le cadre de son intimité, on a l'impression qu'on est dans un lieu, au fond, protégé, en fait, alors, ce qui n'est pas celui de la vraie vie.
Dans l'étude qu'on a menée, on a montré qu'il y avait quand même 17% des relations qui étaient, comme on dit, un coup d'un soir, vous voyez ? Et donc, c'est assez classique. Mais faut-il le réprimer ?
Bon, le réprimer, non, bien sûr que non, mais la difficulté dans un groupe et une équipe après peut être la même que lorsqu'un couple dit légitime explose à l'intérieur d'une entreprise. Ça ne crée pas forcément des relations faciles non plus, non ?
Moi, je ne suis pas pour qu'on soit, en fait, dans une logique où on analyse tout et on fait la transparence sur tout. Il faut laisser les êtres humains avec leurs zones parfois grises et ne pas chercher toujours en fait à juger ou à évaluer. Donc, quand vous avez quelqu'un qui peut-être est mal dans son couple, ça donne à l'adultère, bon, ben voilà, très bien. La personne prend ses responsabilités.
Il y a pareil, une auditrice ou un auditeur, je ne sais pas, sur WhatsApp, qui dit, dans le cas de Nestlé quand même, je comprends évidemment les enjeux vu la responsabilité du directeur, mais humainement, que fait-on de la honte après ça ? J'imagine dans quel état ce type est en ce moment. J'entends cette remarque. Non, alors visiblement ça ne vous touche pas du tout, Jean-Claude Dagé.
En général, quand vous êtes à ce poste-là, vous avez à la fois l'expérience pour rebondir.
Vous voulez dire, voilà, il va retrouver un travail.
Voilà, vous avez l'expérience. C'est pas le cas, je dirais, de l'ouvrier.
Oui, c'est plus voilà. Difficile.
Et puis vous avez la rémunération, vous avez tout.
Vous
avez...
croyez qu'il a pris un petit parachute.
La position victimaire va lui permettre de rebondir très rapidement.
Je ne crois pas que la situation du président de Nestlé puisse être prise complètement dans le même cadre. On est potentiellement, je n'en sais rien avec certitude, mais on est potentiellement en droit suisse. Deuxièmement, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que les présidents, les DG sont des mandataires sociaux qui ne sont pas appréhendés par le code du travail. Et je dirais un petit bémol par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude, si, c'est pas évident en termes réputationnels, plus on est haut placé, plus on gagne beaucoup d'argent, c'est pas évident de se recaser dans l'immédiat avec une casse comme celle-là.
Bon, bah écoutez,
c'est
voilà.
Pas vraiment une casserole. Pour lui, il ne vivra pas comme une casserole.
On verra, je ne le connais pas.
On va terminer sur cette casserole. Je vous remercie chaleureusement tous les deux et tous pour vos nombreuses questions. Je ne pars pas sans remercier Fabrice Desmas et Philippe Duclos à la technique ce soir. Philippe Lefébure est le rédacteur en chef du 18-20. C'est Thomas Langlin qui le réalise. Pierre de Certaines, Amaury Baucher et Nathalie Poitvin s'occupent de la programmation. Merci à tous les amis.